Oui, on le devance un peu aujourd'hui là pour analyser le point de presse du 6 de l'Outaouais. Salut, Carl.
Salut, LP.
Comment je dirais ça pour commencer? Ben au moins, on a eu un point de presse aujourd'hui.
Oui, on a eu un point de presse pour faire la situation. Je pense qu'on n'avait pas vraiment le choix avec ce qui se passe là dans les résidences de faire le point. Maintenant, il demeure encore beaucoup de questions sans réponse, hein, notamment sur la qualité des soins qui sont offerts aux résidents. Eux n'avaient pas de rapport confirmant ce que certains médias ont entendu par rapport à la situation dont comparable à ce qui se passe en Ontario, et on va y revenir.
Oui.
Également au niveau de la rapidité avec laquelle on peut obtenir les résultats. Ça prend encore beaucoup de temps d'obtenir des résultats. Donc, ça serait mieux d'avoir des réponses.
Et tu sais, on a de premières informations, j'allais dire relativement précises, mais pas tant que ça, là, mais quand même, sur l'éclosion aux résidences La Gap, alors qu'on est rendu à 25 cas. Il y en avait déjà 18 de confirmés vendredi. Il a fallu que le 104.7 dévoile ça pour qu'on nous donne un minimum d'informations.
Et c'est ça qui est étrange, le manque de transparence. Parce que quand on n'est pas transparent et qu'on force les médias à fouiller, à gratter pour faire ressortir des informations qui sont d'intérêt public, ben ça mine la confiance, évidemment, de la population envers les institutions. D'autant plus que lorsqu'on regarde le portrait global, depuis le 18 mai, là, au courant de la semaine dernière, en Outaouais, on a une hausse des cas de COVID de 22 %. Ça, c'est la pire hausse au Québec. Pire que Montréal en termes de hausse en proportion. Évidemment, la situation ici est beaucoup moins pire qu'ailleurs. Mais ce qui est inquiétant, c'est les tendances. Et là, ben, quels sont les véritables chiffres? Tiens, on parle de 25, mais est-ce qu'on est déjà rendu à 35, 40? On verra dans plusieurs jours, malheureusement, parce que c'est difficile d'obtenir ces résultats-là. Et si on n'avait pas creusé, si les collègues du 104.7 n'avaient pas creusé, peut-être qu'on n'en parlerait pas encore.
Écoute, je ne sais pas combien de messages on a reçus aujourd'hui de familles nous remerciant d'en avoir parlé parce que eux-mêmes disaient on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. De personnel également qui peuvent pas, là, qui n'ont pas le droit de donner des entrevues, Carl, mais je te donne un exemple, là. Il y a une infirmière qui m'a écrit aujourd'hui en disant « Merci de l'avoir dévoilé à la radio. Ça va peut-être faire bouger les choses pour que nos résidents reçoivent enfin les soins qu'ils méritent et que pour que mes collègues reçoivent du renfort pour en venir à bout. » Je pense pas qu'on inventerait ça là, de la part du personnel et ça concorde pas beaucoup avec le discours du CISO cet après-midi. Peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux, là.
Mais tu sais, il y a toujours, depuis le début de cette crise-là, une espèce de comment je pourrais dire, une réalité qui est différente sur le terrain par rapport au discours public, que ce soit les autorités de la santé ici en Outaouais ou que ce soit les autorités provinciales, le premier ministre Legault. On se fait dire des choses et les témoignages qu'on reçoit du terrain nous dresse un portrait complètement différent.
Alors, est-ce que la réalité terrain ne se rend pas au gestionnaire ou est-ce qu'il y a un contrôle de l'information et une centralisation de l'information qui fait en sorte que on en dit le moins possible dans les points de presse?
Est-ce qu'il y a une bureaucratie qui est installée qui fait que ça prend beaucoup de temps avec la véritable portrait se rendre aux décideurs? Si c'est le cas, ben c'est un problème parce que les décisions sont prises alors qu'on n'a pas le vrai portrait. Et tu sais, ça va nous amener à parler de l'Ontario là parce que le rapport de l'armée qui a été publié aujourd'hui par le premier ministre Doug Ford, ben ce rapport-là
D'aller dans le détail du rapport, j'étais surpris et content de voir que l'armée, au-delà d'aller prêter main forte, a pris la peine de prendre des notes et de pondre un rapport. Et on nous dit que ça va s'en venir au Québec également.
Oui, oui, effectivement, ça va s'en venir au Québec. Puis écoute, eux autres, tu sais, ils arrivent comme observateurs neutres et indépendants, là. Eux autres, ils ont pas d'enjeux particuliers. Ils ont pas demandé à être là. Ils vont pour rendre service parce que on a besoin de bras, on a besoin d'aide. Mais ils profitent de la situation, selon les structures qu'ils ont, pour faire rapport de la situation sur le terrain, comme ils le feraient dans le cadre d'une autre opération, d'une autre mission.
Oui.
Alors, moi, je trouve ça très bien.
Et dans le contenu du rapport en Ontario, ça déchire le cœur, pas à peu près, là.
Ben, ça déchire le cœur. d'ailleurs, et ce que j'allais dire, c'est que le rapport en Ontario a été rédigé le 14 mai. On est rendu le 26. Comment ça se fait que ça prend 12 jours avant de se rendre en haut? Je comprends pas ça. Pourquoi que ça... Tu sais, je veux dire, on a-tu envoyé ça par courrier? Je veux dire, il y a une invention spéciale pour que ça bouge vite. Ça s'appelle le courriel. Ça peut se rendre rapidement. Mais à place de ça, on a un rapport qui déchire le cœur, comme tu viens de le dire, qui dort sur les tablettes pendant plus d'une semaine. Ça me dépasse complètement.
Oui.
Je trouve ça irréaliste, surtout quand on entend les témoignages, là, les faits sur le terrain, des couches souillées, des résidents qui souffrent de plaies de lit parce qu'on les a pas bougés depuis plusieurs jours, ceux qu'on gave alors qu'ils sont assis puis qui s'étouffent dans leur propre nourriture.
Assis, il y a une personne, entre autres, un usager qui est décédé parce qu'on l'a gavé couché.
C'est hallucinant.
On lui a même pas levé le dos.
C'est hallucinant. Je veux dire, comment qu'on traite notre monde?
Je t'en parle, puis j'ai des frissons, là, parce que je me dis, si c'était ma mère, là, je sais pas ce que je ferais, là.
Écoute, c'est pour ça que je ne mets pas en doute la sincérité du premier ministre Doug Ford lorsqu'il parlait aujourd'hui de son état d'esprit, de ses émotions, qu'il était choqué de ça. Je sais que sa femme, la mère de sa femme, elle est également en institution, donc elle est toute chavirée de ça également. Ouais. Je sais pas si on a un extrait de Doug Ford.
Oui, on va l'écouter à l'instant, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
It's unacceptable. You know, I think it's appalling. I think it's disgusting what has happened. Just the dignity of these patients in long-term care not being cleaned. These are just standard operating procedures to clean someone. When you feed them, you lift them up. I'm not an expert in health, but I know when you feed someone, you lift them up and feed them. It's so disturbing when I read this. It was hard to get through. It was the worst report, most heart-wrenching report I have ever read in my entire life. Ever.
On sent toute l'émotion, puis en même temps, c'est un copier-coller de la situation Erin dans la région de Montréal et ensuite la réaction de François Legault.
Ben oui, bien sûr. Et Doug Ford qui a également dit, ben c'est ma responsabilité, même si j'ai hérité du système. Ouais, sauf que t'as hérité du système, mais t'as fait des choix budgétaires qui ont mené à des décisions sur le terrain qui mènent à ce genre de situation, notamment le fait qu'en Ontario, parmi les 626 résidences, ben l'an passé, en 2019, il y a eu seulement 9 inspections complètes de ces résidences pour pouvoir vérifier la qualité des soins. Je te parle pas d'inspections qui sont faites à la suite d'une plainte où on sait qu'on s'en vient, on peut tout nettoyer,
ben oui,
on peut
c'est
tout
ça.
Camoufler. Je te parle d'inspections, là. L'inspecteur arrive, sonne à la porte. Ah, vous saviez pas que je venais? Tant mieux, je peux voir ce qui se passe. Il y en a eu 9 sur 626.
Est-ce qu'on appelle ça de l'aveuglement volontaire?
Ben, c'est ça. Alors, tant qu'on n'a pas de crise puis que personne se plaint trop, on gère d'autres problèmes, puis on gère d'autres choses, puis on continue d'avancer notre politique. Mais la réalité, lorsqu'on arrive avec une crise comme la COVID-19, fait que le système déborde rapidement, les gens tombent malades, et puis là, ben, on a ce genre de rapport-là, mais ça date pas d'hier, là, LP. Moi, je me rappelle en 2007, quand je faisais campagne avec Howard Hampton, le chef du NPD de l'Ontario, où il y avait, pendant la campagne, tenter de soulever cette question des couches souillées dans les résidences. Et on parlait juste d'écoles confessionnelles. À tous les jours, on parlait d'écoles confessionnelles. Lui, il tentait de parler de soins de longue durée. Et il n'était pas capable de faire passer son message. Une journée à Hamilton, il avait pété les plombs en disant « Pourquoi il y a personne qui parle de cet enjeu-là? » Ben, 13 ans plus tard, c'est l'armée qui nous met en alerte.
Effectivement. Ça fait 25 ans que je fais du média, là, 20 ans de la radio, puis ça fait 20 ans que j'en parle de ces situations-là. Merci beaucoup, Carl.
Salut, LP.
Bonne fin de journée. Puis d'ailleurs, l'autre exemple aujourd'hui, ça aussi, ça fait 20 ans qu'on en parle, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'air climatisé dans les résidences pour personnes âgées. Ça fait que là, on est pris de court par une canicule hâtive, puis écoute, il doit faire combien là-dedans? Là? 45 degrés, ça n'a pas d'allure. Il est 16 heures.